9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon 1er mai. Un nouveau projet de loi antiterroriste a été présenté mercredi par le ministre de l'Intérieur et il faut s'attendre à beaucoup d'autres propositions du même type dans les mois qui viennent. En effet, comme va nous l'expliquer Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, la préoccupation sécuritaire a bondi de 26 points en un an dans la population française. Je reçois également Geoffroy Lejeune, le directeur de Valeurs Actuelles. C'est lui qui a décidé de relayer la tribune des militaires en retraite dont on a tant parlé cette semaine. Et l'on terminera l'émission avec le comédien Denis Podalydès qui prête sa voix à un documentaire sur Napoléon diffusé ce soir sur Arte. Frédéric Dabi, vous êtes le directeur général de l'IFOP, c'est votre institut qui a réalisé le sondage sur les Français et la sécurité paru dans le dernier numéro du journal du dimanche. Il est très important ce sondage car il en dit long, me semble-t-il, sur la prochaine campagne présidentielle.
Oui, il installe un petit peu le décor de cette pré-campagne avec cette installation de la thématique sécuritaire à un niveau jamais vu depuis mars-avril 2002, qui n'est pas une campagne présidentielle anodine où on se souvient de l'affaire Papivoise, l'affaire Nanterre, qui avait mis la sécurité au cœur des motivations de vote des Français. Là, dans cette enquête, on a 86% des Français, la question est un peu artificielle, mais 86% des Français qui nous disent que la sécurité constituera un élément essentiel de leur vote à la prochaine élection présidentielle.
Il y a surtout le fait que la préoccupation sécuritaire a bondi de 26 points en un an.
Oui, c'est très rare que sur un sondage d'opinion où on pose de manière récurrente des questions, on ait un bon pareil. On l'a enregistré en septembre dernier. Alors, septembre dernier, c'est pas anodin non plus. C'est après cet été meurtrier où tous les Français, de gauche comme de droite, hein, il y a eu un affadissement du clivage gauche-droite, ont eu le sentiment que la lutte contre la délinquance constituait un vrai problème. Il y a eu surtout la nature ou le profil des victimes de cet été meurtrier, où c'était souvent des personnes dépositaires de l'autorité de l'État. Cette préoccupation va de pair avec le sentiment d'impuissance des politiques et le sentiment de perte d'autorité de l'État. Le maire de Signes dans le Var, ce chauffeur de bus à Bayonne, des pompiers, des policiers, ce qui a fait que pour les Français, ils ont lié cette montée de l'insécurité, non pas à la question du manque de force de l'ordre, c'était pas un constat quantitatif, mais c'était plutôt sur l'insuffisance de la réponse pénale.
Alors, Frédéric Dabi, il faut quand même relativiser. La sécurité n'est que la deuxième préoccupation des Français, bien après la santé, hein, et à égalité avec l'éducation. Mais on voit bien que c'est plus facile, au fond, de se servir de la sécurité dans une campagne présidentielle, dans une campagne électorale, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que la santé ou l'éducation.
Oui, vous avez parfaitement raison, même si en 2012, il faut se souvenir que la thématique majeure de campagne du candidat Hollande, c'était l'éducation et la jeunesse. Mais c'est vrai qu'avec le feuilleton, si je puis dire, l'effet divers rapporté par les médias, par les chaînes d'information continue, ça installe un climat particulier. C'est une sorte de papivoisisation, si je puis dire, de la campagne présidentielle. Mais c'est vrai que dans ce sondage, et celui qu'on a refait il y a quelques jours, vous en parliez pour le journal du dimanche, on voit que la sécurité, que ce soit le volet délinquance ou le volet terroriste, est nettement devancée par la santé, et ça a été arrivé avant la crise du Covid. Hein. C'est en août 2019 que pour la première fois, la santé arrive en tête parce que grève des urgences, parce que situation déjà jugée fragile de l'hôpital public, parce que la question de l'accès aux soins, et également, vous le disiez, l'éducation, où très clairement, hein, la Covid a accéléré, a amplifié l'inquiétude des Français sur le délabrement de l'institution, sur la moindre incarnation par Jean-Michel Blanquer, et la crainte pour leurs enfants. Donc, la délinquance, la sécurité, oui, enjeu majeur, oui, enjeu réactivé constamment par le jeu, si je puis dire, de l'actualité, mais ce n'est pas quand même aujourd'hui le principal enjeu.
Alors, le problème d'après ce sondage, toujours ce sondage que l'IFOP a réalisé pour le journal du dimanche le week-end dernier, ce qu'on découvre, c'est que la sécurité est jugée comme un point faible d'Emmanuel Macron. Donc forcément, c'est sur ce terrain que ses rivaux vont l'attaquer, comme ils l'avaient fait pour Lionel Jospin en 2002.
Exactement, hein, j'ai retrouvé l'intervention de Jacques Chirac du 14 juillet 2001. Pourtant, c'était le président cohabitant qui était avec son Premier ministre. Il tape à boulet rouge sur le laxisme de la gauche en matière sécuritaire, sur l'inaction de Lionel Jospin. 20 ans après. C'est vrai que quand on regarde les enquêtes de popularité, on a réalisé une enquête sur les 4 ans de l'accession d'Emmanuel Macron au pouvoir. Il est le moins bien noté sur les questions de sécurité, d'immigration, de terrorisme. Il a en gros 3/4 de personnes qui jugent que le compte n'y est pas. Et c'est un des rares domaines où on a le sentiment qu'il n'agit pas, qu'il n'est pas dans la transformation, qu'il n'est pas dans l'action et qu'il y a un décalage entre ses discours et la réalité. Et bien sûr, vous le disiez, ses principaux adversaires aujourd'hui, Xavier Bertrand, qui fait une entrée en campagne uniquement sur les sujets régaliens, et bien sûr Marine Le Pen qui adopte cette posture de Cassandre. Je vous l'avais bien dit que c'était un problème, je vous avais bien dit qu'il y avait un lien entre les migrants et les actes terroristes, qui en profite, même si on est dans un contexte où quand on interroge les Français, hein, toutes les questions comptent. Est-ce que qui ferait mieux qu'Emmanuel Macron sur le sujet ? Personne ne s'impose vraiment.
Alors, on va y venir, parce que ça, c'est un des points très importants de votre sondage. Mais d'abord, il faut quand même voir que seuls 27% des Français trouvent que le bilan d'Emmanuel Macron est satisfaisant dans le domaine de la sécurité. Et cela, en dépit de la loi sur la sécurité globale, des lois antiterroristes, de la loi contre le séparatisme, de son ministre de l'Intérieur qui multiplie les déclarations de guerre aux islamistes et aux trafiquants de drogue. En dépit de tout ça, ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au fond, l'impression qu'on a que Emmanuel Macron n'est pas sécuritaire, c'est une impression comme ça, qui ne bougera pas. Au fond, quoi qu'il fasse, et ça ne changera pas.
Vous avez raison. D'une part, l'empilement des lois n'a jamais, impacté sur la perception des Français. Sous Nicolas Sarkozy, il y a eu aussi beaucoup de lois décidées sous le coup de l'émotion. Le petit tennis en 2008, l'affaire Laetitia Perret assassinée par Tony Meillon en 2009 ou 2010. Ce n'est pas pour autant que les Français avaient le sentiment que les choses allaient mieux. J'ai oublié le discours de Grenoble. Là, c'est vrai qu'il y a dans l'imaginaire des Français qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui est volontariste, qui est capable d'action, de transformation sur le plan économique, sur le plan de la société, mais beaucoup moins sur les thématiques régaliennes. Et ce type de perception, ce type d'imaginaire est assez difficile à faire bouger, même si il a raison. Aujourd'hui, à un an de l'élection présidentielle, il y avait cette interview dans le Figaro la semaine dernière, d'essayer de défendre son bilan. Ce n'est pas pendant le cœur de la campagne où il devra non plus être sur la défense du bilan, un peu comme une citadelle assiégée, mais comme l'homme qui va proposer un projet pour la France de demain, qu'il sera peut-être plus audible. Mais effectivement, on est sur une dimension, parce que ça touche le quotidien, ça touche son entourage, il dit que ça a été agressé. Il y a bien sûr, je le répète, l'orchestration, volontaire ou pas, médiatique d'une France où on ne se sent plus en sécurité comme avant, tout ça conduit à une opinion très exigeante.
Alors, vous l'avez dit, quand on lit votre sondage, on réalise que la droite et l'extrême droite ne sont pas plus convaincantes sur ce sujet que le gouvernement actuel. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est qu'au fond, les Français, on l'a dit, ils ne font pas confiance visiblement à Emmanuel Macron sur ce sujet, mais ils ne font pas confiance aux autres non plus.
Oui, quand on interroge les Français, c'était une autre enquête il y a quelques semaines, on voit que personne ne ferait mieux. C'est vrai que dans l'imaginaire des Français, le politique est là pour peser sur le cours des choses, pour transformer le quotidien. Or, sur les questions sécuritaires, quand on a dans ce sondage 3/4 des Français qui considèrent, mais on est sur une perception, que la délinquance augmente ces dernières années, et même 35% qu'elle a beaucoup augmenté, il est difficile pour les politiques, celui qui est au pouvoir, on en a parlé parce que l'empilement des lois ne change pas grand-chose, et ceux qui sont dans l'opposition, qui sont sur des incantations, qui sont sur des propositions, qui sont sur le ministère de la parole, si je puis dire, à pouvoir convaincre les Français. Donc les Français peuvent être davantage convaincus par des postures, par du volontarisme, le volontarisme sarkozien, par des formules choc, le karcher, la racaille, que par des actes. Mais à un moment, il y a un principe de réalité qui fait que les Français regardent d'abord les résultats. On a eu des ministres de l'Intérieur qui ont été plutôt exonérés, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. C'est pas complètement une question que de droite. La gauche a réussi à s'imposer. On aurait pu citer également Jean-Pierre Chevènement qui a fait le constat sur les sauvageons en 2000-2001.
Mais on voit bien que c'est une question de posture, comme
exactement.
Vous l'avez dit. C'est pas en fonction des résultats. Mmh. On veut être rassuré par des personnalités qui font mine de nous protéger.
Voilà.
Et on ne se soucie pas tant que ça, de savoir si c'est efficace.
C'est vrai que sa propre sécurité, on a toujours un décalage entre je me sens plutôt en sécurité, mon entourage, mes proches, mon village, mon quartier ne se sent pas en sécurité. C'est vrai que la posture, le volontarisme peut être un moyen de compenser l'absence de résultats jusqu'à quand même l'exercice du pouvoir. Le Nicolas Sarkozy très sécuritaire de 2007 s'est quand même fracassé entre guillemets face à François Hollande parce qu'il avait un vrai talon d'Achille la suppression de 10 000 postes de forces de l'ordre que l'entourage et le candidat socialiste avaient fortement exploité.
Frédéric Déby, est-ce que les Français veulent que l'on soit plus répressif ?
Oui et non. Oui, c'est vrai qu'on a, sous le coup de l'émotion, quand on réalise un sondage il y a quelques semaines sur la délinquance, on voit que les mesures répressives arrivent nettement en tête. L'application systématique des peines, l'expulsion des délinquants étrangers. Mais les Français sont assez en même temps, ou plutôt ils sont assez rocardiens, dans le sens où oui, il faut de la répression sur la longue durée. D'ailleurs, depuis 2002, l'attente majeure vis-à-vis de la justice, c'est devenu non pas assurer l'égalité devant la loi, mais sanctionner les coupables. Protéger les victimes, le statut de la victime est apparu au cours des 15 dernières années. Pour autant, oui, les mesures préventives peuvent être audibles, mais elles doivent être, si je puis dire, on n'est pas sur une bataille d'Hernani, tout répressif, tout préventif. Il faut plutôt un alliage des deux, même si aujourd'hui, quand on entend la tonalité du discours politique relayé par la sphère médiatique, on est quand même sur un discours assez répressif.
Est-ce que la population française s'est droitisée ?
La question est difficile, mais quand on... Il y a une sorte de hiérarchie des valeurs, un imaginaire des Français où clairement les valeurs de droite se sont imposées. Je ne parlerai pas de sécurité, mais quand on regarde, on avait fait une enquête il y a quelques semaines pour le journal du dimanche, une sorte de radioscopie de l'électorat RN, et pour avoir 1000 Français qui avaient voté une fois pour le Rassemblement National, on était parti de 3000 Français, donc un très gros échantillon. On leur a proposé toute une série d'affirmations qui recèlent des valeurs. On a deux dimensions qui émergent très fortement et qui sont clairement, qui appartiennent à l'imaginaire de droite. D'abord, la France qui tombe, la France qui est en déclin, 75%. Alors, 75%, ça veut dire que le clivage gauche-droite n'existe plus. Ça veut dire qu'il n'y a que des clivages générationnels. La France qui tombe avec l'effondrement de ses institutions, la justice est laxiste, on a perdu notre souveraineté. Et puis, ce qu'on peut appeler la sécurité culturelle et identitaire minée par l'immigration de masse. Donc, on est quand même sur des thématiques qui ne sont pas droitisées, mais qui sont plutôt mobilisés par le personnel politique de droite. Il y a quand même de la place pour des valeurs de gauche, mais la gauche ne les mobilise pas. La gauche n'en parle pas.
Est-ce que la population française s'était gauchisée avant l'élection de François Mitterrand ? Est-ce qu'on pouvait le sentir à ce moment-là ?
Clairement, oui, puisqu'on sait très bien qu'une une victoire idéologique précède la victoire politique, la victoire électorale. 81, on va fêter ou commémorer, pour ceux qui ont mal vécu cette période, célébrer les 40 ans de la victoire de François Mitterrand. Ça s'était accompagné par des victoires très nettes aux élections précédentes, aux élections intermédiaires, notamment les municipales de 77. Et c'est vrai que les thématiques de gauche, l'égalité, la question de la lutte contre les discriminations, la politique à l'époque de la relance, c'était des thématiques qui s'étaient imposées dans l'opinion publique. Mais clairement, sur le sociétal, la population française reste à droite. On le voit dès 83. Élection partielle dans le 20e arrondissement de Paris, la fameuse municipale de Dreux, le tonnerre de Dreux dont avait parlé Jean-Marie Le Pen. On voit très bien que les thématiques de droite sur les questions sociétales étaient là, sous-jacentes.
Est-ce que c'est à droite que va se gagner l'élection présidentielle, à votre avis ?
Alors, je vais être bien sûr prudent. On est à un an de l'élection, l'offre électorale n'est pas figée. C'est vrai qu'il y a une sorte d'alliage entre les thématiques, les prétendants qui vont essayer de l'incarner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même, dans le spectre de cette pré-campagne présidentielle, qui, entre parenthèses, enjambe complètement des élections qui ont lieu dans moins de deux mois, des thématiques de droite. Mais clairement, pour que la gauche, par exemple, puisse pouvoir tirer son épingle du jeu, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, on se dirigerait tout droit vers un troisième 21 avril, elle doit moins rester sur cette thématique sur laquelle elle est moins à l'aise que mettre à l'agenda des thématiques de gauche, des thématiques où elle peut développer une offre programmatique, comme les inégalités, comme le climat, et force est de constater qu'elle ne le fait absolument pas.
Est-ce que ça veut dire que la gauche, pour se faire entendre et gagner des voix, doit obligatoirement venir sur le terrain de la droite et demander, elle aussi, plus de mesures sécuritaires, plus de répression, moins d'impôts
Je pense que ça ne suffira pas. On préfère toujours, vous connaissez cette formule un peu éculée, l'original à la copie. On ne peut pas se permettre non plus, et on se souvient que François Hollande en parlait sans problème pendant sa campagne. On a retenu que quelques phrases du discours du Bourget. Il a parlé sécurité, il a parlé délinquance, il a même parlé immigration, mais clairement, la gauche, quelle que soit l'incarnation, le ou les candidats, devra orienter l'agenda politique vers des thématiques de gauche, ce qui est assez audible pour les Français dans un contexte de crise économique, dans un contexte de questionnement sur le modèle social français, sur les grandes institutions qui sortent absolument lessivées de la crise. Je parlais de l'école, l'hôpital, bien sûr. Un discours de gauche peut être audible. On a en gros un tiers des Français qui se positionnent à gauche sur un axe gauche-droite. C'est beaucoup moins que par le passé. Mais il y a quand même un espace. C'est vrai que rester seulement être en défense sur des thématiques de droite, c'est l'échec assuré.
Dernière question, Frédéric Dabi. Si la gauche emporte des régions ou régionales, ou les conserve brillamment, est-ce que ça peut rebattre les cartes ?
Je serai prudent. Bien sûr, une dynamique est possible. Il ne faut pas oublier que l'élection présidentielle, élection matrice, élection à part, s'inscrit dans un continuum d'élections, et ces régionales du 20 et 27 juin seront la dernière élection avant l'élection présidentielle. Donc sur le papier, peut-être. Mais qu'est-ce que nous a appris cette séquence des élections intermédiaires 2017-2021 ? C'est à quel point le champ politique a été partagé, fractionné, entre un champ politique national, où c'est clairement, quelles que soient les enquêtes aujourd'hui, Macron-Le Pen qui domine, et un champ politique local, où ce sont les partis traditionnels, les anciens partis de gouvernement, les Républicains, le Parti Socialiste, qui tirent leur épingle du jeu. Donc on s'attend à ce qu'En Marche ne gagne que très peu de régions, voire aucune région. Est-ce qu'une bonne tenue de la droite, une bonne tenue de la gauche aux élections régionales veut dire peut-être une dynamique vers la présidentielle ? Je n'y crois guère.
Merci Frédéric Dabi d'être venu nous voir en direct ce matin sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei.
Bonjour Geoffroy Lejeune.
Bonjour Frédéric Tadei.
Vous êtes le directeur de Valeurs Actuelles. Votre magazine est accusé d'avoir publié une tribune, la fameuse tribune des généraux en retraite, qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Alors vous êtes le seul à qui l'on n'a pas demandé sa version de l'histoire. Alors première question, cette tribune d'anciens militaires, dont une vingtaine de généraux, est d'abord parue sur Internet, sur un site intitulé Place d'Armes. Pourquoi avez-vous choisi de la relayer ? Je dis relayer car vous ne l'avez pas publiée dans votre magazine, comme cela a été dit, vous l'avez relayé, c'était sur Internet.
C'était sur le site Internet de Valeurs Actuelles. Alors vous dites que je suis accusé, qu'on est accusé d'avoir pu publier cette tribune. Je plaide coupable, on a en effet publié cette tribune et ça s'est passé comme ça se passe pour des dizaines de tribunes, c'est-à-dire que j'ai été contacté, moi, il y a 15 jours déjà maintenant, c'était un samedi, il y a 15 jours par du coup le promoteur de cette tribune, celui qui l'avait publié sur son blog, qui m'a demandé si on pouvait donc la relayer. Et il commençait, lui, à en faire la promotion dans les médias. Il a été sur une radio concurrente, ce jour-là, le samedi, il y a 15 jours.
Il faut savoir qu'il s'appelle Jean-Pierre Fabre-Bernadac, c'est ça. Capitaine à la retraite, un ancien du service d'ordre du Front National, romancier à ses heures, on lui doit les strings de l'Armée Rouge, ou la double vie de l'étrangleur.
Exactement. Et donc, en fait, on était en week-end, et moi, je plaide coupable pour autre chose, c'est qu'il m'arrive parfois de m'arrêter de travailler. Et donc, j'ai attendu, en fait, le lundi de revenir au bureau pour tout simplement demander à un jeune journaliste de Valeurs de la rédac, de la lire, de voir si c'était intéressant, quel était le contexte, etc., de prendre contact avec lui. Ce qu'il a fait. Et puis, deux jours plus tard, on a relayé cette tribune, le fameux 21 avril, donc, qui a créé cette polémique.
Alors, justement, cette date du 21 avril, c'est 60 ans jour pour jour après le putsch des généraux en Algérie. Me dites pas que c'est un hasard.
Je suis désolé de vous décevoir, mais c'est complètement un hasard. En fait, c'est vraiment le fruit de cette petite histoire que je viens de vous raconter. Et moi, c'est vrai, il y a deux choses qui m'amusent. C'est premièrement le complotisme généralisé qui vise à avoir des symboles partout. C'est-à-dire que je me souviens quand j'étais au lycée, j'avais des copains qui m'expliquaient, tu te rends compte, le 11 septembre, c'est arrivé le 11, alors que les deux tours forment un 11. Est-ce que tout ça ne serait pas un peu étonnant quand même? Et en fait, aujourd'hui, de la même manière, vous avez des gens qui font le rapprochement entre le jour de publication de cette tribune, qui pour nous correspond à un jour de publication des tribunes, parce que ça correspondait à un moment d'audience particulier, etc. Et ils vous expliquent que c'est un rapport avec l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle en 2002.
C'était un 21 avril aussi.
Un 21 avril, évidemment. Alors je précise, un second tour présidentiel, c'est l'inverse d'un putsch, hein, puisque c'est une tentative démocratique de prendre le pouvoir, qui s'était quand même soldé par un 82-18, donc on était quand même loin de loin du basculement. Et ensuite, non, moi je pense pas du tout à l'Algérie à ce moment-là, je pense à rien d'ailleurs, je suis même pas au courant, moi, personnellement, que c'est ce jour-là qui va être choisi, bref. Et en revanche, par contre, ce qui est très intéressant, et c'est là où moi je veux insister aujourd'hui, c'est que on allait publier le 21 avril dans l'indifférence générale. C'est-à-dire, comme beaucoup d'ailleurs de tribunes de gens qui n'ont pas une notoriété énorme, elle est publiée, le 21 personne n'en parle, le 22 personne n'en parle, le 23 personne n'en parle, et il faut attendre le 24, le cirque de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui montent sur leurs grands chevaux de manière coordonnée, tous en même temps, tous les députés de la France Insoumise, pour expliquer que, attention, on vient d'échapper à une tentative de putsch trois jours plus tôt, que personne n'avait vu.
Alors, cela dit, beaucoup ont vu toutes sortes de réflexes d'extrême droite dans cette tribune. Il y est fait allusion au délitement du pays, le recours salvateur à l'armée contre l'islamisme et les hordes de banlieue. Je cite la tribune, les valeurs civilisationnelles de l'armée, je cite encore. Tout ça, quand vous l'avez lu quand même, ça vous a
bien
pas
sûr,
paru particulièrement, c'est vrai, refléter tout un univers qui est celui qu'on dit être d'extrême droite.
Alors, vous avez raison de poser la question, et en fait, c'est l'occasion d'apporter une réponse à cette question. D'abord, premièrement, je suis sur la ligne Frédéric Taddeï dans ce cas-là, c'est que tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc, il faut donner la parole à tout le monde, même quand on n'est pas d'accord. Nous, à Valeur, dans le journal ou sur le site, on fait des interviews de gens avec qui on n'est pas d'accord, ou on publie des tribunes de gens avec qui on n'est pas d'accord, et on laisse toujours les gens qui sont attaqués éventuellement dans ce genre de tribune répondre sur notre site, dans notre journal, etc. Ça, c'est la première chose par rapport à cette tribune-là. Ensuite, sur le texte que vous venez de citer, c'est hyper intéressant parce que vous dites un univers d'extrême droite, etc. Il y a quand même un épilogue à cette affaire, c'est le sondage qui a été commandé et publié par nos confrères de LCI en fin de semaine, qui dit que sur certains items, si on peut rentrer dans le détail, mais en gros sur le constat posé par la tribune, 83% des Français sur le délitement de la France, je crois, sont d'accord, 74% des Français, moi ce chiffre m'a fait halluciner, ont compris que l'antiracisme en fait était un racisme inversé. Bref, ce qu'on appelle aujourd'hui l'univers d'extrême droite, c'est en fait les trois quarts de l'opinion française. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quoi que vous disiez, en fait, qui est un tout petit peu contre la doxa générale qui s'est installée dans ce pays depuis une quarantaine d'années, c'est l'extrême droite. Donc il faut décider de s'en foutre et puis arrêter de plier sous les colibets, c'est pas possible.
On reviendra sur le sondage Harris Interactive, Geoffroy Lejeune, mais Marine Le Pen a été la première à réagir avant Jean-Luc Mélenchon. Et la France insoumise. Alors on lui reprochait à cette occasion d'être tombée dans le piège, de s'être montrée telle qu'elle est, d'avoir montré que le Rassemblement National n'était pas un parti vraiment républicain. C'est vrai qu'elle n'a pas condamné les signataires de la tribune et qu'elle leur a demandé de la rejoindre. Mais comment avez-vous... Est-ce qu'elle est tombée dans le piège d'après vous ?
Pour moi, la grande nouvelle de cette affaire, c'est que Marine Le Pen peut de temps en temps faire preuve de sens politique en réalité. Parce qu'elle voit que cette tribune est publiée, elle constate que d'ailleurs ça fait pas de débat au moment où elle la lit, et en fait elle décide de leur répondre en évitant le piège qui aurait été de dire « vous avez raison, vous êtes géniaux, je suis avec vous », elle dit « rejoignez-moi ». Dans un cadre légal, institutionnel, de prise de pouvoir, dans lequel je me suis inscrite en étant candidate à des élections. Donc déjà, sur la thématique du putsch, etc., etc., elle évite le procès immédiatement. Ensuite, deuxièmement, c'est sur l'instinct de comprendre que, en fait, ces généraux traduisent un sentiment général, en fait, qui est traduit par le sondage dont on va parler, et elle comprend qu'en fait, il faut répondre à cette inquiétude. Et il y a d'un côté Marine Le Pen qui est la seule à les soutenir, entre guillemets, et si vous regardez les réactions dans la classe politique, c'est très intéressant. Globalement, silence gêné ou acceptation molle de la part de la droite institutionnelle, parlementaire, etc., et vous avez la France Insoumise et le gouvernement qui tombent à bras raccourcis sur les signataires de la tribune, sur les gens qui seraient éventuellement d'accord avec eux, avant de réaliser en fait qu'ils viennent de se mettre 80% des Français à dos.
Peut-être pas autant, mais c'est vrai que dans la tribune, si je me souviens bien, ils se disaient disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. On sentait bien qu'il y avait un appel du pied. En fait, on pouvait se demander, en lisant cette tribune et sachant que celui qui en est à l'initiative avait travaillé pour le service d'ordre du Front National, on se disait peut-être qu'au fond, cette tribune, c'est uniquement un appel aux militaires à voter pour Marine Le Pen.
Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, quand vous regardez, après, il y en a beaucoup qui ont été interrogés dans les médias, et la plupart, vous constatez qu'en fait, il y en a un qui est candidat à la présidentielle de son côté, qu'ils ne sont pas finalement tous... Certains ont été des candidats à Rassemblement National, d'autres ne sont pas spécialement Rassemblement National. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en réalité. C'est moi, je reconnais, quand j'ai lu la tribune, je me suis dit... Ils sont en train, enfin, c'est vraiment comme ça que je l'ai lu, honnêtement, si les gens veulent la relire, ils vont comprendre. Ils sont en train de dire, si vous ne faites rien, vous étant la classe politique, on va arriver à un moment où vous allez avoir besoin de l'armée pour régler les problèmes de la France, les problèmes d'autorité notamment. Moi je suis désolé, mais c'est un débat qui existe depuis 15 ans en France. Je crois depuis les émeutes de 2005, faut-il envoyer l'armée dans les banlieues pour rétablir l'ordre ? Débat qu'on a régulièrement, notamment au moment des attentats, etc. Et puis débat en fait qui a été un peu tranché par François Hollande. Hein, donc on n'est pas en train de parler d'un général putschiste ni d'un dangereux personnage d'extrême droite qui en fait a mis de manière permanente l'armée dans la rue depuis 2015 pour protéger des lieux de culte, des écoles.
C'est l'opération Sentinelle.
C'est l'opération Sentinelle. Pardonnez-moi, mais pour l'instant, c'est des militaires dans la rue, mais on n'entend pas encore le bruit des bottes.
On fait une pause, Geoffroy Lejeune, on se retrouve juste après.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, est en direct avec nous ce matin sur Europe 1. On revient sur cette tribune de militaires en retraite qui a fait beaucoup parler cette semaine. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, vous l'avez dit, ont été parmi les premiers à réagir.
Bah, en fait, ils ont fait quelque chose. D'ailleurs, il faut refaire ce film parce qu'il est incroyable. Vous avez donc la publication le 13 ou le 14 sur un blog, le 21 chez nous. Le 22, il ne se passe rien. Le 23, il ne se passe rien. Il y a juste l'attentat de Rambouillet. Et l'attentat de Rambouillet, à ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon fait un tweet de condamnation, évidemment, dans lequel il ne nomme ni la profession de la victime policière, donc, ni l'idéologie de l'agresseur, du terroriste, en l'occurrence l'islamisme. Il se fait tomber dessus un peu à bras raccourcis sur le sujet. Il y a quand même une gêne de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon en particulier sur ce sujet. Il a quand même beaucoup de mal à mettre des mots sur le problème. Bon, vous avez cette début de polémique, je crois que c'est un vendredi, le 23, le jour de l'attentat. Le lendemain, Monsieur Mélenchon, qui donc a tweeté une fois pour condamner l'attentat, tweet quatre fois. Moi, je regarde ça, je tombe des nues. Tweet quatre fois contre une tribune de généraux qui ne prononce même pas le mot insurrection, évidemment, ni le mot putsch, qui a été publié trois jours avant, que pour l'instant, personne n'a vu. Et là, je me dis, voilà, il est en train de se passer ce qui se passe toujours avec les trotskistes, c'est-à-dire une manipulation. Il faut leur reconnaître ce génie, ils sont capables de faire ça. Ils vont essayer de créer un sujet médiatique sur cette affaire. Et moi, de mon petit poste d'observation, je me dis, et en plus, ça va nous retomber dessus. Donc je décide de pas, qu'on se laissera pas faire. Il fait son opération. Le lundi, il fait une conférence de presse quand même. Donc on est au lendemain d'un attentat. On est surtout au lendemain de la manifestation pour Sarah Halimi. Donc il se passe des choses dans le pays qui sont quand même un tout petit peu plus inquiétantes qu'un potentiel putsch de généraux en retraite qui sont tous en plus un peu rangés des bagnoles.
Et on peut penser aussi que aussi bien les manifestations en faveur de Sarah Halimi ou l'attentat, l'assassinat d'une policière au commissariat de Rambouillet, ça va dans le sens de ces fameux signataires de la tribune ça peut rendre la tribune encore plus inquiétante.
Oui, mais ce que Jean-Luc Mélenchon fantasme, c'est une prise de pouvoir de la part de militaires factieux. On est extrêmement loin, il faut le rassurer, de ça. Vous avez qu'à regarder la réaction de l'armée elle-même. En plus, quand vous connaissez un peu le sujet, vous savez que les militaires ne veulent pas intervenir sur le plan civil. C'est pas leur métier. Ils sont faits pour faire des opérations extérieures. C'est un sujet extrêmement complexe que manifestement Jean-Luc Mélenchon découvre et surtout dont il a décidé de se servir politiquement pour agiter un chiffon rouge qui, dans l'inconscient collectif, je comprends, fonctionne bien. Mais il fait son cirque, il fait une conférence de presse, et à ce moment-là, ça devient un sujet politique, et la presse demande au gouvernement de réagir. Et le gouvernement, moi, c'est ça qui m'a le plus... Mélenchon est dans son rôle, honnêtement. En revanche, le gouvernement est tombé dans un panneau incroyable, c'est-à-dire que ils ont pris pour argent comptant ce que racontait la France Insoumise, et ils ont commencé à condamner en disant que c'était effrayant, terrible, etc.
C'est quand même, reconnaissez, je crois, le jeune, que c'est quand même incroyable que le gouvernement n'ait pas réagi pendant 5 jours.
Mais parce que vous réagissez quand il y a besoin de réagir. Honnêtement, sur une tribune qui aurait été lue, s'il s'était rien passé, si personne n'en avait parlé, qui aurait été lue par 10, 20 000 personnes, qui aurait mollement acquiescé, c'est devenu un sujet national. Et là, pour le coup, maintenant que la polémique existe, il s'est passé quelque chose dans l'opinion française. Alors moi, je suis pas Frédéric Dabi, c'est pas mon métier, mais j'ai le sentiment...
Le directeur général de l'IFOP qui était mon invité juste avant vous.
Mais je pense que les sondeurs vont devoir l'analyser et que ça va être passionnant. Il s'est politiquement passé quelque chose parce que le réflexe de l'appel aux militaires a rencontré un écho dans l'opinion parce que les médias y ont donné une audience énorme. Et puis vous avez, encore une fois, je reviens sur ce sondage, on pose la question aux Français, donc à l'Institut Harris Interactive demande aux Français s'ils sont favorables à l'intervention de l'armée pour rétablir l'ordre sans qu'on lui ait demandé, c'est-à-dire là pour le coup on parle réellement d'un putsch, et vous découvrez qu'il y a 49% des Français, 1 sur 2, qui est favorable à cette option. Et là en fait on bascule dans autre chose, c'est-à-dire que les généraux, l'armée française et la classe politique, y compris l'extrême droite, ne sont pas putschistes, en revanche les Français sont en train de le devenir, c'est ça qui devrait inquiéter le gouvernement.
On va finir sur ce sondage, mais Libération quand même, le quotidien qui qui s'étonne de ces longs jours de silence du gouvernement quand, je cite Libération, les menus sans viande dans les cantines ou la question des réunions non mixtes à l'UNEF ou le prétendu danger islamo-gauchiste dans les facs donnent droit à des réactions immédiates de la majorité. C'est vrai que dans tous ces cas, la majorité et le gouvernement réagissent immédiatement. Et puis là, il y a une tribune de militaires, alors en retraite, mais on le découvrira après, qui disent que si ça va mal, on peut toujours intervenir. Et là, ils réagissent pas. C'est quand même bizarre.
Et dans le papier de Libé, tout est dans le prétendu danger islamo-gauchiste. On parle d'un prétendu danger qui a conduit des étudiants récemment à placarder, à afficher le nom de professeurs en les désignant à la vindicte populaire.
Non mais ça, c'est... vous connaissez que c'est un autre problème.
C'est un autre problème, mais c'est pas un prétendu problème, c'est un énorme problème. Donc en fait, la question du pardon, je vais pas défendre le gouvernement ici ce matin, mais leur métier c'est de s'intéresser au réel et aux problèmes réels. Est-ce qu'il y a un problème islamo-gauchiste ? Oui. Est-ce qu'il y a un problème avec la folie des écolos qui font des menus sans viande dans les cantines ? Oui, c'est nouveau, etc. Est-ce qu'il y a un danger de prise de pouvoir par la force de l'armée en France ? Non. Encore une fois, quand vous connaissez le sujet, vous voyez bien que non. Regardez la réaction de l'armée, l'institution. Je ne vais pas les défendre parce que je trouve que c'est un peu bas. Mais le général Lecointre, qui est chef d'état-major des armées, prend des sanctions contre 18 signataires complètement inconnus qui ont eu le malheur de mettre leur nom sur un blog qui était consulté
c'est
par personne.
Les 18 signataires encore en activité, dont 4 officiers. Hein. Absolument. Tous les autres étaient à la retraite ou ont été radiés. Mais alors justement, finissons sur ce sondage Harris Interactive pour LCI, réalisé sur 1613 personnes, selon lequel 58% des Français soutiendraient les militaires ayant signé la tribune et 49%, près d'un sur deux, penseraient que l'armée doit intervenir pour garantir l'ordre, même sans être sollicité par le gouvernement. 73% pensent que le pays se délite, 86% que les lois de la République ne s'appliquent pas sur la totalité du territoire. Effectivement, tout à coup, on se dit, peut-être qu'au fond, il y a un vrai danger dans cette tribune, puisque les Français semblent totalement d'accord avec ces signataires.
C'est surtout un révélateur, en fait. Il faut le prendre pour ce que c'est. C'est le révélateur que la dernière étape plutôt de la révélation du fait que le gouvernement et même l'opposition en fait sont complètement à côté de la plaque sur ce qui est en train de se passer dans l'opinion, dans la tête des gens. En fait, cette tribune, c'était une injonction à réagir et la réaction a été exactement le contraire de ce qu'il aurait fallu dire pour rassurer l'opinion. Donc en fait, le problème reste entier et il y aura d'autres épisodes, tribunes de généraux parce que en réalité, ce sujet n'est pas du tout éteint.
Merci Geoffroy Lejeune d'être venu en direct ce matin sur Europe 1 pour nous raconter votre version de l'histoire. On se retrouve dans un instant avec Denis Podalydès.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Denis Podalydès.
Bonjour.
Vous êtes sociétaire de la Comédie Française. On vous a vu au cinéma dans Embrasser qui vous voudrait de Michel Blanc, dans Laissez-passer de Bertrand Tavernier ou dans La Conquête de Xavier Duringer où vous interprétiez Nicolas Sarkozy. Ce soir à 20h50 est diffusé sur Arte Napoléon, la destinée et la mort, un documentaire de Mathieu Schwartz réalisé à l'occasion du 200e anniversaire de la mort de l'empereur. Et c'est vous qui racontez en voix off. Mais sans emphase, on est loin de la fascination qui habitait vos prédécesseurs, de quoi de se demander ce que le comédien Denis Podalydès peut bien penser de Napoléon Ier.
De Napoléon Ier, je n'en ai jamais, en tout cas, j'ai jamais eu un rapport d'admiration, de fascination. Je voyais plutôt où est-ce mes instituteurs, mes professeurs. Je le voyais comme un dictateur, comme un despote, comme quelqu'un qui avait transformé la révolution à son profit, qui était le père de si nombreuses batailles et si mortifères que je voyais pas comment lui vouer l'admiration que même des amis que j'avais dans l'enfance, collectionnant les portraits, les images, les récits, je comprenais pas ça. De même que même chez mes auteurs préférés, Stendhal, je sais pas si Hugo avait une telle admiration.
Il est fasciné par la personne de Napoléon Ier quand même. Il se voit comme l'écrivain à la hauteur de l'homme d'action.
Exactement, ce siècle avait 2 ans.
Mais vous dites je le voyais, ça veut dire que vous avez changé d'avis ?
Ah non, non. Faire cette voix m'a beaucoup intéressé parce que j'ai découvert un personnage de Napoléon que finalement je connais mal. Je crois que je le connais tellement par oui-dire. Je n'ai jamais lu de la moindre biographie. J'en ai jamais vraiment fait un objet ou un personnage d'étude. C'est par exemple un rôle qui m'a jamais fasciné. J'ai remarqué d'ailleurs que n'importe quel acteur peut jouer Napoléon. Ayant lui-même travaillé à son personnage, on a l'impression qu'il a laissé le costume, les attitudes, les expressions, et que n'importe quel acteur peut finalement faire l'affaire.
Oui, il suffit généralement d'enfoncer sa main droite dans son gilet et voilà. On a l'air de Napoléon.
Prendre un air un tout petit peu patibulaire, n'être pas trop grand, voilà.
Mais ce documentaire raconte toutes les fois où Napoléon a frôlé la mort, beaucoup plus souvent d'ailleurs que n'importe quel souverain de son époque, ce qui en fait un personnage éminemment romanesque quand même, convaincu d'avoir une destinée hors du commun. Ça doit vous toucher, le côté romanesque.
Oui. Ah ben oui, le personnage est tout de même... Enfin, si l'homme historique ne me fascine pas plus que ça, le personnage que lui-même a édifié est assez fascinant. Il y a une grande réussite, puis l'histoire en a fait une méga star encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est étonnant, je trouve, de célébrer sa mémoire encore maintenant et qu'il n'y ait pas une connaissance beaucoup plus critique du personnage.
Il est tragique, Napoléon. J'ai l'impression au point qu'il est difficile d'en faire un personnage de comédie.
Ah,
à chaque fois qu'on s'y est essayé, Sacha Guitry, par moment,
on
sent bien que c'est pas Napoléon qui est là, quoi.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis toute sa fin, les 100 jours, puis Sainte-Hélène, tout ça est effectivement assez tragique. On voit cet homme devant les pyramides, et puis on le voit toujours dans des situations grandioses. Alors on le voit très peu dans des situations plus vaudevillesques.
Oui, c'est vrai.
Même si je pense qu'il en a connu.
Oui, quand il traverse les Alpes par le col du Grand Saint-Bernard, c'est sur un mulet. Là, il y aurait de quoi rire, mais c'est sur un cheval blanc cabré qu'il se fait représenter par David, sur une toile de 2,60 m sur 2,20 m, tel un super-héros. Au fond, il réécrit l'histoire en permanence, il entretient sa légende.
Ah ben, il utilise, je pense, l'écriture, la peinture à des fins d'héroïsation de son propre personnage. Il a conscience de un type qui a le sens de la communication, ça c'est certain.
De la communication ou du théâtre? Parce que moi j'ai l'impression qu'il théâtralise, et c'est de cela que je voulais parler avec vous. Au fond, c'est un passionné de théâtre, Napoléon. On a calculé que durant les 15 années où il est au pouvoir, il a vu 374 pièces.
Non.
Il y allait une fois par semaine.
Et plus il avait... que tous les présidents de la République réunis, je pense.
Et il avait un théâtre dans chacune de ses résidences. Il adorait Corneille. Tiens, d'ailleurs, est-ce que ça explique quelque chose à vos yeux que Napoléon ait adoré Corneille?
Je pense à ce moment-là, c'est quand même un auteur aussi qui fascine et qui crée dans la salle, beaucoup moins aujourd'hui, mais qui crée de véritables transes, enfin une passion, quoi. Alors je savais pas qu'il préférait par exemple Corneille à Racine, mais en même temps on le comprend, les personnages, je pense que le personnage d'Auguste, il devait totalement s'identifier, emprunter même des citations, les incorporer à son discours, et puis on sait qu'il aimait énormément le grand tragédien Talma, qui était un peu le roi de la comédie française, qui était la grande vedette.
Oui, c'était un peu le Depardieu de l'époque. Hein,
Talma. Oui, qui était un tragédien d'une puissance, enfin les textes d'une puissance folle, enfin, et puis qui avait un grand génie, notamment dans l'interprétation de Corneille, ça c'est vrai.
Mais ça a dû les lier parce qu'ils étaient très amis. Hein. On dit même que Talma lui aurait donné des leçons de maintien.
C'est ça. Oui, je ne sais pas quel. Oh, j'imagine, je sais pas. Napoléon parlait très bien, je crois, en public. Il avait su très jeune, d'ailleurs, galvaniser ses troupes. Ça, je pense que c'est pas un artifice. Enfin, mais il a dû sans doute travailler. Il devait travailler des formes types de discours, d'apostrophes empruntées et au latin, aux orateurs latins et à Corneille. Parce que la quantité de méditations politiques dont il a dû se nourrir, toujours aussi pour servir, je crois, son propre personnage.
Alors cette théâtralisation à laquelle je faisais allusion sous Napoléon, c'est quand même l'âge d'or du théâtre. Hein. Des salles s'ouvrent partout, y compris dans les églises qui ont été abandonnées. Vous le trouvez théâtral, Napoléon ?
Oui, à travers les représentations picturales, bien sûr, parce, notamment ce soin de l'attitude. Je pense qu'il s'est composé une attitude. Je pense que dans l'ordinaire, il n'avait pas la main sous la veste comme ça. Il prenait pas cet air-là. Et je pense qu'à chaque fois qu'il était en public, il a dû soigner un comportement, une attitude, une gestuelle, un port de tête, parce qu'il était petit et qu'il fallait qu'il se tienne et se distingue. Je pense qu'il a eu ça tout le temps. Ça lui est devenu naturel avec le temps. Mais quand on décide d'être empereur, c'est bien qu'on a une conscience de soi théâtrale quand même.
Oui, c'est vrai, ça va pas à tout le monde.
Ben non.
C'est lui qui a fixé les règles de la comédie française par le fameux décret de Moscou en 1812. Est-ce que vous en êtes content des règles ?
Ben, en fait, alors j'ai regardé, effectivement, le dernier grand décret qui a modifié le règlement, il y a toujours en tête, vu les décrets de 1812, donc c'est-à-dire que l'organisation, disons, de la troupe, de la rémunération, les devoirs du sociétaire, les contraintes, tout ça, c'est un peu, il les a, elles existaient déjà, mais il les a renforcées, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se... de jouer dans d'autres théâtres à Paris, en dehors des théâtres nationaux, et bon, avec l'aval de l'administrateur, poste qui n'existait pas encore sous Napoléon. Mais disons que le schéma général de l'organisation de la comédie française, ça date des décrets de Napoléon, même s'il y a eu tant de modifications que c'est devenu un peu une formule rhétorique quand même.
Il avait pour maîtresse Mademoiselle Georges, qui s'appelait, oui, qui l'appelait Georgina, mais qui était une très grande vedette à l'époque, et notamment à la Comédie Française. Ouais. Il s'en est séparé quand il s'est aperçu qu'elle se vantait de leur liaison dans tout Paris. Mademoiselle Mars aussi se vantait d'avoir eu Napoléon pour amant, mais on a des doutes. Et on sait qu'il n'était pas très porté sur les actrices, à qui il reprochait leur manque de discrétion. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, au fond, c'est un problème, les actrices? Elles parlent trop.
Écoutez, ma femme est actrice. Alors, je ne me prononce pas là-dessus. Je botte en touche.
Vous n'avez pas joué sur scène depuis combien de temps, Denis Podalydès ?
Un an.
C'est terrible, non ?
Si, attendez. J'ai joué deux fois au Luxembourg. Qu'est-ce que je raconte ? Le Luxembourg n'a pas cessé, a dû fermer ses salles que pendant un mois. Donc j'ai joué deux représentations d'un texte de Jean-Philippe Toussaint, La disparition du paysage, au mois de tout début avril, voilà. Fin mars, début avril.
Vous en souffrez ? Vous imaginez sur scène ? Vous en rêvez la nuit ?
Ça m'est arrivé, oui. C'est vrai que j'éprouve un certain manque. J'ai pu tourner des films, donc je suis quand même nettement mieux servi que la plupart de camarades acteurs et actrices, mais j'ai bon espoir plutôt pour la rentrée. Moi, je vois pas, je suis pas programmé dans les festivals d'été, je vois pas tellement les salles rouvrir. Surtout que là, on les rouvre début juin. Généralement, tous les théâtres ont déjà bouclé leur saison. Il n'y a pas de spectacle, je pense, qui soit prêt en répétition. Peut-être au Français, il y a un spectacle. Mais donc, on va attendre. Et puis, je sais pas, j'entends parler de ce variant indien. Alors, attendons de savoir un tout petit peu plus.
Et les plateaux de cinéma, alors partant de Covid, ça ressemble à quoi ?
Alors, quantité de gens tout à fait masqués. On découvre les visages des uns et des autres, généralement au dernier jour de tournage, quand il y a un vague pot de fin de tournage, mais très vague, c'est-à-dire à l'issue du dernier plan, il y a eu 2-3 cacahuètes et une petite bouteille de rouge. Les gens soulèvent le masque, boivent une gorgée et on se disperse dans la nuit. Voilà, généralement, ça se passe comme ça. Donc c'est très curieux parce qu'il y a des gens que j'ai tourné des films entiers sans voir le visage de certains des techniciens, parce que les acteurs, eux, sont démasqués, testés. Donc il y a un côté absolument non festif. C'est une sorte de pratique du cinéma complètement comme si on travaillait dans des bureaux.
Merci Denis Podalydès d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Napoléon, la destinée et la mort, c'est ce soir à 20h50 sur Arte.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, se termine. On se retrouve demain matin à 9h. Vous avez maintenant rendez-vous avec Lionel Gougelot et les grandes voix d'Europe 1. Quel est le programme, Lionel ?
Allez, on va parler du calendrier du déconfinement, Frédéric. Déconfinement détaillé par Emmanuel Macron cette semaine. Est-ce que c'est le bon tempo ? Ou alors est-ce que c'est trop précoce ? On essaiera de répondre à cette question. Un président qui, par ailleurs, parie sur le retour des jours heureux pour peut-être lancer sa course à sa réélection. Lanceur d'alerte ou danger pour la démocratie ? On reviendra nous aussi sur cette fameuse tribune des généraux dont vous parliez à l'instant avec Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Pourquoi cette polémique finalement et quels ont été les ressorts de cette polémique ? Et puis Joe Biden, les 100 jours en forme d'état de grâce. Le président américain vaccine ses compatriotes à un rythme d'enfer et il débloque des milliards de dollars pour relancer la machine. Et tout le monde semble content, ou presque.
Merci Lionel, bonne émission.